Internationalisme. Le temps tempête de la Révolution mondiale. Cet extrait de la Commune souligne la force mobilisatrice des horizons lointains dans l'imaginaire révolutionnaire porté par Louise Michel. Elle relie systématiquement entre elles les luttes politiques et sociales du monde entier, aussi ténues soient-elles, pour révéler une harmonie révolutionnaire. Ici, la Commune participe d'une histoire globale. Une forte attention est accordée à l'insurrection kabyle de 1871, dont les chefs ont été eux aussi déportés en Nouvelle-Calédonie. Louise Michel œuvre à transfigurer la Commune vaincue en l'inscrivant dans un temps tempête mondial, où s'amalgament les espaces et les temps de lutte, passés et présents, pour former un raz-de-marée révolutionnaire inexorable. Il y eut par le monde, autour de 71, de grands soulèvements d'idées. Un souffle de tempête les semait. Elles ont ramifié, grandissant dans l'ombre à travers les égorgements. Elles sont aujourd'hui en fleurs. Les fruits viendront. Vers 70, avant, après, toujours, jusqu'à ce que soit accomplie la transformation du monde, l'attirance vers l'idéal vrai continue. Est-ce qu'on peut empêcher le printemps de venir, lors même qu'on couperait toutes les forêts du monde? Vers 70, Cuba, la Grèce, l'Espagne revendiquaient leur liberté. Partout, les esclaves allaient secouant leurs chaînes. Les Indes, comme aujourd'hui, se soulevaient pour la liberté. Les cœurs montaient, assoiffés d'idéal. Tandis que les maîtres plus implacables armaient leurs meutes inconscientes, les entraînant sur le gibier humain, toujours noyé dans le sang, la révolte renaissait sans cesse. C'était partout une marée montante vers l'étape nouvelle et plus haute, en vue toujours, sans qu'elle soit encore atteinte. Les répressions déchaînées, plus féroces et plus stupides à mesure que la fin arrive, sollicitaient, comme nous le voyons encore, le pouvoir affolé et croulant. En novembre 70, les cachots de Russie regorgeaient. Des hommes, des femmes, appartenant comme grand nombre d'entre nous à la jeunesse des écoles, avaient adhéré à l'international. Ils essayaient d'éveiller les moujiks courbés depuis si longtemps sur la dure Zemlya. Voué par la vengeance du tsar et des boyards à la vie nomade, il allait du couchant au levant, criant aux paysans « Rassemblez-vous, levez-vous ». Arrêté par la police impériale, il mourait dans les plaines glacées de la Sibérie, en répétant jusqu'à son dernier souffle que tout homme doit donner sa vie pour la terre et la liberté. Lors des progrès de la Commune, le procès des internationaux était jugé en Russie avec les mêmes cruautés inspirées par la terreur que tous les despotes ont de la vérité. Le mouvement en Amérique avait commencé dès 1866 à Philadelphie, où Uriah Stephens propageait l'idée du groupement défensif des travailleurs contre l'exploitation. Pendant plusieurs années, les réunions des Knights of Labor, chevaliers du travail, restèrent secrètes. Puis tout à coup, James Wright, Robert Macaulay, William Cook, Joseph Kennedy et d'autres, s'unissant à Uriah Stephens, formèrent un premier groupe de propagande, bientôt suivi d'autres. Aujourd'hui, ce n'est plus par centaines, mais par centaines de mille que se comptent les Knights of Labor. Ils eurent depuis correspondance pour les grèves avec les Trade Unions et les associations ouvrières de l'Amérique du Nord et celles de l'Irlande contre les évictions. Elle est en réalité depuis toujours, sous tous les noms que prend la révolte à travers les âges, cette union des spoliés contre les spoliateurs. Mais à certaines époques, telles que 71 et maintenant, elle frémit davantage devant des crimes plus grands, ou peut-être il est l'heure de briser un anneau de la longue chaîne d'esclavage. L'Algérie, en 70, ployée sous la conquête, puisait dans ses souffrances le courage de l'insurrection. Vers la fin de février, Les Arabes, qui connaissaient le despotisme militaire, mais qui ignoraient ce que serait le despotisme civil et préféraient le mal connu au mal inconnu, commencent à se plaindre plus fort qu'on envoyait jusque dans leur famille des Français, pour lesquels ils sont toujours des vaincus. Ils réclamaient leurs compatriotes dans les bureaux et craignaient encore plus l'administration civile pour s'immiscer chez eux. La révolte, qui chez les peuples asservis couve toujours sous la cendre, se propagea rapidement. Le vieux cheikh Haddad, sorti de la cellule où il s'était muré depuis plus de 30 ans, vit que son pays souffrait de la servitude et commença à prêcher la guerre sainte. Ses deux fils, Mohamed et Ben Aziz, El Mokrani, Ben Ali Sherif et d'autres, soulevèrent les Kabyles. Ils eurent bientôt une petite armée, et vers le 14 mars, le Bachaga de la Medjana envoya chevaleresquement une déclaration de guerre au gouverneur de l'Algérie. Pendant 8 jours, les Arabes assiégèrent Borj Bou Hariridj, mais les colonnes Bonvalet, composées de plusieurs milliers d'hommes, les enveloppèrent. L'un des cheikhs, alors, descendit de cheval et gravit lentement la hauteur d'un ravin que balayait la mitraille. Il reçut, dit encore Jules Favre, la mort qu'il cherchait, orgueilleux et fier, comme il eût fait du triomphe. Ainsi, en mai 71, devait faire Delescluze. On dirait qu'en écrivant cela, Jules Favre se souvenait du temps où, entouré de la jeunesse des écoles, il était avec nous d'une bonté paternelle, et où nous l'aimions, comme nous aimons la révolte pour la République et pour la liberté. Oh, la Respublica que nous rêvions alors, qu'elle était grande et belle,